Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci de nous être fidèles, même les jours fériés. Mon invité ce matin est Samuel Bijaoui, à l'occasion de la sortie en salle de son documentaire 68, Mon père et les clous. Dans ce film, Samuel Bijaoui filme son père qui, après avoir tenu pendant 30 ans une boutique de bricolage rue Monge à Paris, est contraint de la fermer. Cette quincaillerie a été dans le quartier de Saint-Michel un magasin très particulier, un espace de rencontre dirigé par un intellectuel, ancien maoïste. Et ce film en immersion ne témoigne pas seulement de la fin d'un commerce de proximité, mais aussi de la fin d'une époque, la fin d'une utopie, on peut le dire, et la fin d'un monde. Et donc, avec nous ce matin, le jeune réalisateur, mais aussi Michel Simon du magazine Positif, qui a vu et aimé 68, Mon père et les clous. Bonjour Samuel Bijaoui.
Bonjour Toufik.
Premier film, premier passage à France Culture.
Oui.
Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Alors, c'est pas votre premier passage à France Culture, on peut le dire, mais vous nous direz aussi ce que vous faisiez en
J'espère que c'est pas le dernier.
Oh, surtout pas. Vous nous direz ce que vous faisiez aussi en mai 68, Le réveil culturel, préparé avec Corinne Amard et Maël Ray, réalisé par Lionel Quentin, avec Philippe Mercher ce matin à la technique, moteur.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Je lui dis, ça me fait rire de le voir toujours derrière un comptoir. Je dis, c'est un mec qui a fait des études supérieures, qui a essayé de faire la révolution, qui a été quasiment un homme de main dans les groupuscules révolutionnaires, et puis qui a fait des films politiques, et puis qui se déguise en épicier, là, comme ça, marchand de bricolage, etc. En faisant ça sérieusement, mais personne ne peut deviner que c'est un dangereux subversif qui est derrière la caisse. Ça, ça me fait rire. Voilà. De savoir, sans le dire, ça me fait rire.
Bon, et si on commençait par là, par ce portrait que dresse un des meilleurs amis de votre père?
Ben oui, en fait, il est venu comme ça par hasard. Moi, je les faisais pas venir, quoi. Ils passaient, faisaient un petit détour quand ils étaient proches du magasin pour prendre un café. Donc c'est filmer tout dans la spontanéité. J'entends des rires. Donc je me précipite. J'étais pas là quand il est arrivé précisément. Claude Evenot. J'étais à l'atelier au fond. Et puis j'entends des rires. Donc je me précipite et je lui demande en effet qu'est-ce que ça représente pour lui le fait que son pote a ouvert une boutique de bricolage, quoi, et s'est mis à vendre des clous alors que il a eu un parcours quand même plutôt atypique, comme il vient de le dire.
Oui, il aurait pu être prof à l'université, exactement, continuer à faire du cinéma, lui qui a commencé à en faire avec Rhys Ivens,
exactement,
ou être polémiste à la radio. Il a préféré ouvrir cette boutique. Et quand vous décidez de filmer votre père, c'est parce que la boutique est déjà menacée, vous sentez que votre père va prendre la retraite. C'est quoi l'idée de départ, Samuel Bijaoui? Pourquoi avoir fait ce documentaire?
Alors, en réalité, faut remonter, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à filmer Bricomanche, donc cette quincaillerie, et je filmais, mais pas tant le lieu, enfin pas tant lui, pardon, que le lieu qui était pour moi incroyable et très attachant. C'était pour capter, on va dire, l'essence de ce magasin de bricolage. Et j'ai filmé comme ça pendant des années, de façon très sporadique et anarchique, sans intention particulière, sans aucune velléité, hein, vraiment. Mais je me souviens que je me disais, bah, je fais confiance au temps. Et de toutes ces images, certainement émergera quelque chose. Et en effet, enfin, quand Jean, mon père, donc, m'annonce son intention de vendre la boutique, bah, je réalise aussi à quel point...
Parce qu'il est contraint. Hein.
Parce qu'il est contraint, parce que si, voilà, il est temps de tourner la page, de partir à la retraite. Voilà, pour plusieurs raisons, en effet. Et moi, là, tout d'un coup, je réalise à quel point ce lieu... Enfin, j'ai un lien très affectif avec ce lieu qui était en fait aussi mon ancien terrain de jeu quand j'étais enfant, quoi. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je reviens de façon si insistante? Évidemment, c'était un lieu très, très fascinant, très captivant. On pouvait vraiment poser la caméra le matin, partir et puis revenir le soir, et on avait une quantité de scènes improbables, de sketchs. Enfin, il y avait une ambiance un peu comme dans le film de Lubitsch, Shop Around the Corner. Mais
ou de Paul Auster, c'est vrai. C'est vrai,
oui, aussi.
Ces deux références.
Aussi.
Mais je suppose, Samuel Bjaoui, que si votre film s'appelle 68, mon père et les clous, c'est en référence à 68, mes parents et moi, de Virginie Linard.
Alors aussi, oui, c'est vrai que, bien sûr, la oui, la structure aussi, enfin, forcément, c'est certainement un clin d'œil, mais enfin là, si vous me demandez pourquoi j'ai choisi ce titre, je pense que 68, pour moi, renvoyait donc naturellement aux idéaux, à toute une utopie. Enfin, ça évoque, on va dire, le désir de rêve commun d'une société, voilà, qui a véhiculé cette époque-là. Mais de l'autre, je voyais donc les clous, qui est l'aspect très prosaïque de la vie, en fait, qui appartient vraiment au monde matériel, très pragmatique. Et puis, enfin, je sais pas, enfin, la vie, c'est beaucoup de bricolage, quoi. C'est que du bricolage. Donc l'essentiel, un peu, c'est que ça tienne. Il y a une cliente qui dit ça dans le film, c'est drôle. Et au milieu, voilà, cet homme, donc en l'occurrence mon père, qui, pour moi, peut-être essayer de faire le lien entre les deux.
Voilà, alors vous filmez aussi bien votre père, bien sûr, c'est le personnage central de votre film, mais si votre film est attachant, c'est que vous dépeignez tout ce petit monde, c'est-à-dire d'abord les travailleurs, ceux qui ont travaillé avec votre père, les employés, j'ose pas employer ce mot parce que justement, il y a une drôle de relation avec eux, on a l'impression que c'est une famille. Vous filmez aussi les clients, vous filmez le quartier, puisque le quartier se fait aussi entendre dans ce magasin, et puis surtout, vous isolez votre père, cette fois-ci dans un lieu souterrain, pour lui faire raconter son histoire. Et on a l'impression que vous avez aussi fait ce film, Samuel Bjaoui, pour connaître l'histoire de votre père.
Ah oui, tout à fait. Moi, je savais rien de lui. Je précise que tout ce qu'il dit devant la caméra, c'est la première fois qu'il me le dit. On n'en avait jamais parlé de cette façon-là. Je me souviens, quand je devais avoir 20 ans, je lui ai proposé de prendre un café pour qu'il me raconte un petit peu cette période militante, et j'avais été extrêmement déçu parce qu'il s'était réfugié derrière une attitude un peu, un discours très professoral et historique des événements, ce qui ne m'intéressait absolument pas. Je voulais savoir lui depuis sa place. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette sorte de huis clos et de l'interroger uniquement dans ce lieu, depuis ce lieu qu'il a créé, parce que ça raconte des choses, quoi.
Et là, il se confie, le Jean Bjaoui, on l'écoute.
Il y a d'autres trucs qu'on a fait, mais ça, c'était pas dans ce cadre-là, qui ont été très populaires, du genre Fauchon, du genre quand on a distribué les tickets de métro, ça plaisait beaucoup, ça fait rigoler tout le monde.
C'est-à-dire
des trucs Robin des Bois, comme ça.
Qu'est-ce que ça veut dire distribuer les tickets de métro?
Et on a été voler des tickets de métro dans une station, une nuit, et après ces tickets de métro, on les a distribués, enfin, les militants ont distribué, rapidement, hein, il ne fallait pas se faire piquer, ont distribué aux gens, comme ça, gratuitement. C'était, je sais plus, il y avait eu une augmentation brutale des tarifs. Et alors, c'était pour ça.
Et la police, elle faisait quoi, alors?
Bah, ils sont embêtés. Dans ce genre de trucs, ils sont embêtés. Ils te courent après, mais en même temps, ils sont embêtés. Parce que quand ils attrapaient quelqu'un, tu vois, ils passaient devant le tribunal en correctionnel, mais ça devenait une tribune, tu vois, ça gueulait partout. Bon, c'était pas... La police, elle faisait son travail, mais probablement sans grand enthousiasme. Enfin, pour des choses comme ça. Pour des choses comme ça, c'est pas... C'est des questions politiques, ça se... C'est pas des questions policières, ça.
Tu penses qu'aujourd'hui, la réaction serait la même ?
Stop. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, ça serait une question policière. Attends.
Voilà, madame, regarde. Il y a ça.
Et pendant les interviews, Samuel Bjaoui, la vie continue dans ce magasin, dans cette quincaillerie. Bon, ceci dit, votre père n'a pas seulement fait que de distribuer des tickets de métro à la manière de Robin des Bois. Il a aussi séquestré un patron. Il s'est lancé dans la chasse aux nazis. Il vous raconte tout ça dans ce film. Et ce qui est intéressant, beaucoup plus d'ailleurs que ses réponses, ce sont vos questions, Samuel Bjaoui. On peut mesurer vraiment le conflit de génération, je parle d'idéologie, entre les questions que vous posez à votre père, les réflexions que vous lui faites, là on vient d'entendre, vous lui posez la question, et que faisait la police pendant ce temps-là quand même?
Oui, bah oui, pourquoi?
Non, mais juste pour dire que c'est très réjouissant de voir quelqu'un parler d'une manière très spontanée, ça donne des scènes d'anthologie comme celle-ci par exemple, écoutez voir.
Au fait, tu devais pas rendre à l'agence de location la camionnette?
Oui, non. Il me donne jusqu'au 3, voilà.
Mais là, tu veux combien la camionnette?
500 euros par mois.
Mais tu l'as depuis combien d'années, la camionnette?
Ça va faire 10 ans maintenant.
C'est aberrant, oui, c'est
10
aberrant.
10 ans fois 12 fois ouais, 500...
Il a payé une fortune.
C'est ridicule.
Bien sûr. C'est tout à fait ridicule, en effet. J'aurais pu en acheter 3 pour ce prix-là.
Non, mais t'es vraiment mauvais en affaires, quoi, en fait.
Oui. Très.
Non, mais c'est un... Enfin, je sais pas, tu réfléchis pas, en fait, quand tu fais ça. Tu croyais que il y a 10 ans, t'allais ne pas avoir besoin du camion? Je comprends pas ton raisonnement.
Bon, en fait, peu importe, c'est comme ça. Oui, ça a duré trop longtemps, en effet. Ça a duré trop longtemps.
Mais tu te rends compte, tout le fric perdu?
Bien sûr, oui.
Mais toi, en fait, t'aimes bien perdre de l'argent.
Oui, sans aucun doute. Bon, écoute, tu me laisses tranquille, là, maintenant.
Là, il est énervé, votre frère. Hein. Samuel Biomi, là, il est énervé. Hein.
Oui. Ouais. Je l'agace un peu, oui, bien sûr, je vais le chercher un petit peu.
Ouais. Et non, et en plus, vous posez les questions de votre époque. Rentabilité, rendement.
Oui.
Alors, ce qui est bien dans ce film, c'est que vous avez intégré, y compris cette scène où tous les travailleurs, votre père compris, regardent ce que vous avez filmé. Ça, c'est dans le film.
Alors, c'est un peu particulier. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé à filmer pendant des années sans vraiment savoir où j'allais. Et donc, il n'y avait pas d'intention de film. Je prenais des images, en fait, de ce lieu, parce que, à nouveau, c'était un haut lieu de sociabilité dans le quartier. C'était un repère pour beaucoup de gens. On n'y venait pas seulement pour acheter une planche ou des clous, mais vraiment, voilà, pour prendre un café, pour parler politique, économie, cinéma, philosophie, enfin, demander des conseils. Donc, de toutes ces images-là, j'en ai fait un film que je projette. En fait, c'est pas vraiment un film, on va dire que c'est plutôt un album de photos, images animées, comme une sorte de patchwork, et qui ne s'adresse qu'aux habitués, qu'aux clients, qu'à la famille, qu'aux employés. C'est vraiment le film de l'entre-soi que je projette lors du pot de départ. Mais il n'y a pas de fil, il n'y a pas de narration. Mais j'ai voulu filmer cette scène et la mettre dans le film. Alors là, bon, c'est vraiment interne. On rentre dans des considérations liées au montage, mais parce que je trouvais intéressant qu'il y ait cette petite graine qui a donné naissance au film, au documentaire 68 Mon père et les clous, qui est cette graine à l'intérieur du film. Mais c'est un autre film, voilà, qui dure une petite heure.
Ouais, et puis 68 Mon père et les clous, c'est pas un film sur votre père, c'est un film d'un fils aussi, hein, c'est-à-dire que vous êtes très très présent avec vos questions, avec votre manière de filmer, votre manière de mettre en scène les personnages. Michel Simon, vous avez vu le film de Samuel Biaoui? On attend avec impatience votre verdict.
Non, mon verdict, bon, c'est un film très intéressant, mais en même temps, je m'interroge. J'ai pas eu la réponse vraiment dans le film. C'est-à-dire, d'abord, je comprends ce que vous dites à propos de votre père. C'est-à-dire que quand vous parliez avec lui, il parlait pas beaucoup. Il racontait pas beaucoup de choses. Et on sent que vous le poussez dans ses retranchements, dans la scène au sous-sol, où il va parler de l'action directe, des actes presque, il se définit même comme terroriste à un moment.
Non, tout le contraire.
Il emploie le mot terroriste.
Ah bah oui, non, mais non. Tout le contraire. Il dit justement, si vous entendez bien, voilà. Aujourd'hui, on nous aurait appelé des terroristes, voilà. Mais on n'était en rien des terroristes. Ils n'ont jamais fait couler le sang.
Séquestration, non, d'accord, c'est séquestration. Et il était maoïste. Alors, l'articulation entre, c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire quelqu'un qui a une boutique, qu'il appelle ça un refuge, une petite entreprise. Il dit qu'il a cette boutique parce qu'il ne veut avoir personne au-dessus de soi, alors que le maoïsme, c'est par définition avoir une figure paternelle qui est Mao et de faire tout. Moi, je me rappelle Godard, je l'ai vu en 70 au Trocadéro, où quand les gens lui posaient des questions, il disait « j'ai pas à répondre à ces questions, tout se trouve dans Pékin Information ». C'est-à-dire les maoïs, c'était la parole, le petit livre rouge, c'était les paroles idiotes de ce criminel monstrueux qui avait fait 50 millions de morts, et ça ne posait aucun problème aux gens. Moi, j'étais du côté de Simon Lèze, je lisais les habits neufs du président Mao, etc. J'étais très mai 68, mais côté Cohn-Bendit, pas du tout côté stalinien. Les communistes staliniens, eux, freinaient les quatre fers. Les maoïstes, au contraire, voulaient faire le grand bond en avant. Et il y a une contradiction. Et j'aurais aimé peut-être que votre père aille plus loin dans comment on peut passer d'avoir quelqu'un au-dessus de soi dont on écoute les paroles d'évangile comme un boulin à prière, et puis passer à la petite entreprise où on ne veut avoir personne au-dessus de soi et c'est une sorte de refuge. C'est le contraire du maoïsme, la petite entreprise. Mao les détruisait toutes.
Bah, écoutez, ça, je vous laisse le plaisir de lui poser la question directement. Je ne vais pas répondre à sa place. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, Bricomonge a été une sorte d'incarnation, de continuité d'une vision politique, sociale, économique, sociétale de cet homme, et que je le comprends comme ça. Le film tente de répondre à cette question. D'abord,
bon, ouais, parce que c'est plus largement coopératif d'ailleurs.
Comment fabrique une vie et qu'est-ce qui l'a amené, laissez-moi finir, qu'est-ce qui l'a amené à ouvrir à 40 ans une boutique de bricolage et à vendre des clous, alors qu'en effet ses potes de l'époque ont eu un parcours, on va dire, plus naturel. Ils sont devenus professeurs d'université, journalistes, cinéastes, écrivains, etc. Bon, lui, il a choisi ça, il a créé un monde qui est très particulier pour qu'un des employés dise, un des employés, en effet, enfin, comme vous disiez, Toufi, que c'est difficile d'employer le mot employé, justement, à l'égard de ces personnes, mais il dit, j'ai un peu perdu mon magasin. Quand il a appris, donc, que Bricomonge allait fermer. Voilà, j'ai pas voulu tout expliquer parce que je respecte, hein, ces zones d'ombre, ces silences. Et que j'apporte des éléments de réponse pour comprendre comment il en est arrivé là et qu'est-ce que c'est que Bricomonge et de quoi Bricomonge est le nom pour lui et puis pour beaucoup de gens, pour ce que ça représente dans le quartier.
Mais surtout, ce qui est important dans ce film, c'est que vous arrivez avec votre regard. C'est-à-dire, on voit bien que les questions que vous posez, le regard que vous portez sur ce magasin, ce sont vraiment d'un jeune d'aujourd'hui qui n'a pas l'idéologie de ses parents ou de son père, plus particulièrement en ce qui vous concerne. D'ailleurs, c'était la question que je voulais vous poser pour terminer cet entretien. J'ai beaucoup aimé 68, mon père et les clous, parce que d'abord, vous filmez un magasin en train de fermer, donc c'est l'inventaire. Est-ce que c'était tout à la fois l'inventaire du magasin et l'inventaire de mai 68?
Mais pas du tout, c'est pas un film sur mai 68. Mais il est dans le titre parce que c'est lié au parcours atypique de mon père. Et que quand même, il y a un tiers du film qui parle de ce qu'il a fait, de son action militante lors des événements après 68 d'ailleurs. Ça, rien, je voulais m'aventurer dans un film sur 68. Mais moi, les questions que je pose, c'est...
Alors, inventaire de...
Oui, inventaire, c'était en effet, je pense, un moment très propice lors de la fermeture et du magasin de lui demander des comptes, on va dire, les derniers comptes, quoi, l'ultime inventaire avant la fermeture de ce lieu qu'il a fabriqué. Et puis,
mais aussi voilà, de son parcours.
Voilà, de ce parcours. Et moi, je viens...
Vous auriez aimé vivre cette période, la période de votre père, Samuel Bjaoui? Vous êtes plutôt content de vivre l'époque d'aujourd'hui?
Non, je suis pas heureux de ce qui se passe aujourd'hui, mais après c'est une question un peu délicate. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas vécue? C'est qu'une représentation et des projections.
Alors autrement posé la question, c'est peut-être de vous dire, pour vous votre père c'est un héros ou c'est un loser?
Pas du tout. C'est ni l'un ni l'autre. C'est une personne qui a essayé de bricoler sa vie comme beaucoup. C'est absolument pas la gloire de mon père et c'est pas un loser. Après, lui, il dit, il aurait pu prendre plus de risques, il a fait... Mais il n'y a pas de jugement, je rentre pas du tout. C'est pas quand on parlait de comptes, c'est pas du tout des comptes d'un fils qui réclame un côté comme ça psychanalytique. Pas du tout, moi, je voulais pas du tout rentrer dans cette dimension-là. C'est intrinsèquement le film d'un fils qui filme son père. Mais je veux dire, par là, je questionne... Enfin, la question de la transmission et de la filiation, elle reste universelle. Et je soulève en creux la question comment on fabrique une vie de façon plus générale. Et puis, il y avait plusieurs autres couches de lecture, plusieurs autres strates. Enfin, la question du travail, des relations humaines au travail, et puis en effet, bon, en toile de fond, la fin d'un monde et d'une génération.
68, Mon père et les clous, le film qu'on vous recommande de voir, c'est un documentaire de Samuel Bijaoui. Merci d'être passé ce matin.
Merci Toufik.
Amant plaqué par la vie, amour brisé c'est la vie, regard braqué sur la nuit, au bout du quai c'est fini, chagrin qui mord aujourd'hui, demain encore puis l'oubli, le cœur s'en va résigné, tant fait d'en passer gagné, mais gagné quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous, si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Solitaire sur la terre, l'homme chante sa chanson, mais rien jamais ne lui répond. Les sentiments c'est coûteux, l'or et l'argent c'est bien mieux, on passe le temps comme on peut, ça fera tant cher monsieur. Gros capital bien compté, tout m'est égal si j'en ai, c'est le festival de bonté, le principal c'est de gagner, mais de gagner quoi savez-vous? Quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sur la terre, ça change guère, c'est toujours la même chanson, mais la vie chante à sa façon. Le temps qui court sous la peau, le bon Dieu sourd comme un pot, la trouille pour le magot, et tout autour des badauds. Donne-moi chrétien des tickets, parlant latin s'il te plaît, dernier refrain chuchoté, dis-moi combien pour gagner. Pour gagner quoi savez-vous, quatre planches de bois et des clous. Si tu veux faire ton bonheur, prends les choses comme elles sont. Sous la terre, la poussière, c'était l'homme et sa chanson. Quand on est mort, c'est pour de bon.
Léo Ferré en 1953, bien sûr, vous l'avez tout de suite reconnu, Michel Simon.
Bien sûr.
Alors, si on parlait un peu d'un autre réalisateur, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il a été marqué par mai 68, Michel Deville ou pas.
Non, pas du tout.
Ouais, il faisait un cinéma plutôt bourgeois, non?
Pas bourgeois non plus.
Alors, vous allez prendre sa défense.
Non, mais un artiste n'est pas bourgeois ou pas bourgeois, ça c'est des catégories. Non, un artiste c'est la liberté d'abord, avant tout, et la curiosité. Et Deville, c'est, je disais souvent que il y a des rapports entre Deville et Rennais. Rennais, de façon évidemment très cérébrale et admirable, c'est un très très grand cinéaste. Mais Michel Deville est un cinéaste ludique. Il est proche de l'Oulipo. Il adore les. Par exemple, il a fait un film qui s'appelait La Petite Bande après avec Gilles Perrault.
Absolument.
Qui est sur un groupe d'enfants, des enfants anglais qui se retrouvent en France et ne peuvent pas être reconnus. Le film est entièrement muet, c'est-à-dire il ne prononce pas un mot pendant une heure et demie.
Mais dites-nous, Michel Simon, pourquoi vous nous parlez de l'auteur de Péril en la demeure, du dossier 51 et des Capricieux, pour ne citer que quelques titres de sa longue filmographie. Est-ce qu'on rend hommage à Michel Deville quelque part en France?
Parce que demain, à partir de demain, la Cinémathèque, pour tout le mois de mai, c'est une intégrale de ville. Et je trouve que c'est formidable parce que c'est un cinéaste qui a eu des Césars, trois Césars, qui a été plusieurs fois lauréat du prix de la critique, qui a connu des succès de 1, 2, 3 millions de spectateurs, et qui est tombé un peu dans l'oubli parce que la génération qui n'était pas de la nouvelle vague, c'est-à-dire des gens comme Cavalier, comme Louis Malle, comme Rapneau, eh bien, ils ont été un peu marginalisés par la critique au profit de Chabrol, de Truffaut, de Rivette, etc. Et je pense que c'est formidable que la Cinémathèque aujourd'hui rende hommage à Deville avec des films d'une extrême variété, qui a dirigé tous les grands comédiens français de Piccoli à Deneuve, de Brigitte Bardot, par exemple. L'ours et la poupée, c'est un des meilleurs films de Bardot. On n'en parle presque jamais. Lucky Joe, c'est un film avec Eddie Constantine, qui tranche avec beaucoup de films d'Eddie Constantine, qui n'étaient pas de très grande qualité. Donc je pense que c'est un cinéaste qui était en perpétuelle recherche, Encore une fois, Voyage en douce aussi, deux femmes qui se promènent dans le midi de la France. Un coin presque tranquille sur des juifs qui reviennent des camps et qui ont un atelier de couture dans les années 45-50. C'est très très original. Et il y a des films comme Benjamin, évidemment, Les Mémoires d'un puceau, des films en costume. C'est un homme qui a tout le temps, qui s'est renouvelé en permanence. Et cet hommage qu'on lui rend à la Cinémathèque est accompagné d'un dossier dans la revue Positive, c'est-à-dire un dossier entièrement consacré. Michel Deville est toujours vivant et bien vivant, même s'il a arrêté de travailler. Et je pense que moi, ça me fait très plaisir de voir les portes s'ouvrir et les exclusions cesser.
Merci beaucoup, Michel Simon. Mais bonne journée à vous. Hein, c'est une journée fériée. Merci d'être de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux à nous suivre, soit en nous écoutant tous les petits matins sur France Culture, soit en passant par l'abonnement au podcast ou l'écoute en ligne disponible, entre autres, sur franceculture.fr. Bonne journée, à demain.